song. You're dead and out of this world. You'll never get a second chance. Plan all your moves in advance. Stay dead and out of this world. Run fast, don't stand in the sun. There's too much work to be done. You're down and out of this world. Don't ever talk with your eyes. Be sure that you compromise. You're dead. You're dead and out of this world. Hear the unloved weeping like rain. Guard your sleep from the sound of their pain. Long gone and out of this world. When you smile and it tears your face, it's time for the inhuman race. You're down and out of this world. Now your hope and compassion is gone. You've sold out your dream to the world. Stay dead. You're dead and out of this world.
Salut à tous, c'est Jeudi Noir qui démarre sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et vous venez d'entendre Norma Tanega sur un titre qui s'appelle You're Dead. Pourquoi You're Dead? Parce que ce soir, nous avons décidé dans l'émission de rendre un hommage à David Graeber, anthropologiste américain, anarchiste, qui est mort il y a maintenant quelques jours. Donc peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler dans la presse un peu généraliste ou dans certains journaux. On a beaucoup parlé. Alors Graeber est un anthropologue très connu, un universitaire qui a eu une carrière assez brillante. Il a enseigné aux États-Unis, en Grande-Bretagne, à Londres notamment. C'est un auteur de best-sellers mondiaux. Qui donc ont connu un certain écho, et donc il est un petit peu incontournable, et même dans la presse bourgeoise on se sent un petit dit de gauche, on se sent un peu obligé de rendre un hommage, parce qu'on aimerait bien quand même être du côté de gens de cette trempe là voilà. Alors nous, ce qu'on aimerait rappeler en fait dans cette émission, c'est que Graeber est pas simplement un anthropologue progressiste qui a plein les banquiers ou les assureurs de ne pas trouver de sens dans leur travail. C'est souvent à ça qu'il est réduit, un théoricien de ce qu'il appelait les bullshit jobs. On avait dit qu'on n'en parlerait pas, mais on en parle quand même. Donc ça, c'est un de ses livres effectivement les plus connus, où il parlait de cela. Mais il y a les œuvres de Graeber, c'est vraiment un continent, notamment pour les anarchistes que nous sommes, parce que il a parlé de tout un tas de choses, et notamment de toutes les formes de démocratie directe qu'il a pu étudier, soit dans des sociétés humaines aujourd'hui disparues, hein, c'est un historien aussi des sociétés humaines, soit dans ses analyses de sociétés beaucoup plus contemporaines, hein. C'est aussi quelqu'un qui a travaillé notamment au Rojava, au Kurdistan, hein, dans la Fédération des communes autonomes du Kurdistan, qui est actuellement un des projets libertaires les plus aboutis, hein, pas si loin que ça de chez nous. Et en fait, on avait envie, nous voilà, dans Jeudi Noir, de rappeler un petit peu pourquoi c'est un auteur qui nous a nourris, et pourquoi, et d'insister un petit peu sur le côté anard de Graeber, puisque c'est quelque chose de fondamental chez lui et qu'on ne souhaite pas voir édulcoré. Et c'est quelque chose qui nous a nourris, voilà, à plein d'égards dans Jeudi Noir. Donc on voulait lui rendre hommage là, sur tous ces points ce soir. Alors du coup, c'est Michel, c'est toi qui vas un petit peu prendre le lead là-dessus et nous présenter un petit peu différents points, l'espèce de résumé de gréveur de poche.
Ouais, c'est ça, une espèce de gréveur de poche.
Suisse anarchiste.
Des choses qui nous ont marqué chez lui, en tout cas, ou qui m'ont marqué chez lui. Donc, parce que bon, il y a. Malgré tout, c'est un anthropologue. Nous, on a plutôt une formation philo. Et donc, on pourrait se demander à quoi bon l'anthropo en philo. Et il me semble que c'est. Alors, moi, j'en ai pas mal lu, je continue d'en lire. Je vous avais présenté pas mal de bouquins de James C. Scott, qui est aussi un anthropologue et un politiste. Et en fait, ça s'inscrit aussi dans un cadre un petit peu plus général, qui pour moi témoigne de l'importance d'un type comme Graeber, qui est que, d'une certaine manière, en France, la pensée critique héritée de Foucault, Derrida, Deleuze, a, à mon sens, complètement abandonné le terrain du réel, en disant qu'on ne pouvait pas le connaître, que comme on ne pouvait pas le connaître, ceux qui prétendaient le connaître voulaient nous opprimer, voulaient nous limiter dans nos possibilités, en nous imposant des normes imaginaires, puisque elles étaient déduites d'un réel qu'on ne pouvait pas connaître. Et au bout du compte, à qui ont-ils laissé le terrain avec cette grande victoire sur la méconnaissance du réel, ils ont laissé le terrain aux économistes. Et c'est pour ça que dans les œuvres de Graeber, les ennemis principaux sont les économistes qui, eux, prétendent faire exactement ce que leur reproche la pensée critique française, qui leur a laissé le terrain, faut être clair, en prétendant définir une nature humaine. Une nature humaine qui serait essentiellement capitaliste, quoi. Et donc, là-dessus, il me semble que, justement, c'est pour ça que si on veut réfléchir en termes politiques, si on veut réfléchir à une espèce d'autres possibilités que le capitalisme, un type comme Graeber est essentiel. Parce que, justement, lui se nourrit.
L'étude de société humaine concrète et réelle.
C'est ça.
Voilà,
n'ayons pas peur des mots. Il a étudié des sociétés humaines réelles.
Des vrais gens.
Des vrais gens. Voilà. Un truc réel. Voilà. Alors, là-dessus, j'aurais beaucoup à dire parce que je suis très agacé par cette espèce de. Comment dire ? Y a un principe en philosophie qui s'appelle le rasoir d'Occam, et c'est l'idée qu'il ne faut pas multiplier les entités inutiles, sans nécessité, pour expliquer des phénomènes. Et il me semble que dans la pensée critique française, on a passé au rasoir la notion même de réalité. Sauf que ça nous est revenu un petit peu dans les dents, parce que maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste en quelque sorte l'imaginaire. Et donc on nous traite d'utopistes, puisque ceux qui ont pris pied dans la définition du réel sont justement les économistes libéraux capitalistes.
Qu'est-ce qu'il y a de plus réel pour un économiste libéral qu'un individu calculateur qui cherche à augmenter ses gains, qui cherche à faire carrière, qui cherche à avoir plus que son voisin et qui cherche à avoir un niveau de confort supérieur à ce qu'il a eu auparavant. Et donc ça serait ça effectivement la réalité, c'est la réalité que vendent ou que cherchent à construire les économistes et qui veulent l'imposer comme étant la seule réalité possible. C'est-à-dire qu'ils cherchent également aussi à retrouver dans toutes les sociétés humaines de tout temps, à toutes les époques et dans toutes les circonstances.
C'est ça.
Et effectivement, comme tu dis, ce qu'il y a de sain chez quelqu'un comme Graeber, c'est l'étude concrète d'autres sociétés où il va essayer de montrer qu'il y a des échelles de valeurs et qu'il y a des échelles de projets et des formes d'organisation sociale très anciennes, très multiples, très variées, qui sont radicalement à l'opposé de ça et différentes de cela.
Et en soi, le projet n'est pas nouveau, c'est-à-dire que c'est ce qu'ont fait plus ou moins tous les anthropologues. Il y a pas mal d'anthropologues anarchistes d'ailleurs, comme Pierre Clastres, comme James C. Scott que je vous citais auparavant, mais il y avait aussi Marcel Mauss qui était très proche de thèses socialistes libertaires. Donc c'est pas pour rien non plus que ces gens-là se sont rapprochés de ce genre de truc. Claude Lévi-Strauss aussi était plutôt à gauche au début de sa carrière, avant de très mal finir. Mais... voilà, là-dessus, je trouve que c'est intéressant. Et donc, il va décrire tout un tas de sociétés, il va nous montrer que c'est pas simplement d'autres sociétés qui sont concevables, qui sont possibles, qui sont de l'ordre d'un ordre imaginaire, ce sont des sociétés qui sont réelles. Elles existent, point. Alors, elles sont en train de se faire démolir, elles sont fragiles, elles sont à la marge. Il n'empêche qu'elles existent. Et là-dessus, il me semble que c'est un bon levier pour justement attaquer toutes ces revendications des économistes capitalistes pour définir la nature humaine. Et alors, inversement, c'est pas pour autant, justement, et là aussi Graeber est assez fin, je trouve, qu'il va prétendre que les connaissances anthropologiques qui nous propose, vont pouvoir régler par des faits la question de la meilleure organisation sociale et politique. C'est-à-dire que les faits ne peuvent pas forcément servir de normes non plus. C'est pas ce qu'il va dire, et c'est pas ce que nous on chercherait à dire, du type telle société qui a été étudiée par tel anthropologue devrait être la norme pour nos sociétés. C'est pas du tout la question. Simplement ici, il s'agit de trouver des leviers, je pense, pour faire péter deux trois charnières. Et les charnières qui sont assez puissantes. Et de ce point de vue-là, contrairement finalement à ce qu'on pourrait croire, invoquer certaines sociétés réelles, c'est pas pour imposer une autre espèce de norme, comme je le disais, ça va plutôt pour dénaturaliser ce que nous proposent les économistes. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire quoi de plus naturel qu'un individu calculateur ? Ben non, en fait, c'est pas naturel. Mais là, de mon point de vue, l'angle d'attaque est vachement plus fort en disant « Regardez, il y a d'autres gens qui font autre chose que vous faites des fictions comme tout le monde. » Parce qu'on pourrait aussi attaquer les économistes en disant « Vous êtes le réel est inconnaissable, on ne sait pas de quoi il est question.
» Ce que vous dites est trop réducteur.
Ce que vous dites est trop réducteur. Mmh. Bah, on peut faire ça, mais je pense que c'est beaucoup plus efficace de dire « Non, en fait... Il y a des gens là, ils font autre chose.
Mmh. Oui, ils cherchent pas à maximiser leurs profits, ils cherchent pas à gagner en productivité, ils cherchent pas à accumuler pour réinvestir et augmenter leur taux de profit. Ils font effectivement complètement autre chose.
Et ils le font. On peut les observer.
Mais comme tu dis, peut-être préciser un peu ce truc-là. Effectivement, c'est vrai que chez Graeber, que ce soit sur le livre, son gros livre sur la dette, en fait, il remet ça en perspective historique. Hein, c'est de l'anthropologie et c'est de l'histoire en même temps. On a fait une émission aussi ici sur ses conceptions de la démocratie, la démocratie dans les marges. À chaque fois, effectivement, tu as raison de dire que ce qui met en avant, c'est effectivement d'autres sociétés possibles. C'est pas simplement il y a d'autres mondes possibles, hein, au sens altermondialiste. C'est en fait, c'est un altermondialisme, mais en fait concret. C'est-à-dire qu'effectivement, il montre qu'il y a d'autres, il y en a d'autres. Il y en a d'autres maintenant. Hein, c'est pas simplement à venir. Donc il y en a d'autres maintenant. Simplement, il faut regarder, il faut connaître, il faut savoir, il faut essayer, il faut prendre le temps d'étudier. Et comme tu dis, ça a cet effet un peu de dénaturaliser. Alors ça, c'est pareil.
C'est pas original.
Quand quelque chose paraît naturel, oui, mais quand effectivement le fait de dire que la pensée économiste paraît naturelle, c'est la marque d'une pensée qui est hégémonique, hein, comme on dit parfois. Hein. C'est effectivement quand plus ça a l'air évident, et en fait, plus ça écrase le reste, et plus ça peut être discutable. Et là, dans le cas de la pensée économique, c'est tout à fait ça. Et le fait d'aller faire apparaître, comme ça, d'autres traditions, qui sont réelles, dans le passé et aujourd'hui, ça te fait péter ça. Ça te fait péter cette hégémonie, ce sentiment qu'il n'y a rien d'autre possible, qu'il n'y a pas d'alternative possible, parce que l'homme est ainsi fait, d'une certaine manière.
Et ça fouille, c'est ça. Ça fait péter l'idée que ce sont des rêveries pour un monde idéal. Mm-hmm. Non, parce que c'est des mondes réels. Mm-hmm. Alors après, évidemment, nos adversaires diront toujours oui, mais ça concerne 3-4 Pékin sur une île perdue, dont on ne sait où. Mais en fait, on s'en fout. Mm-hmm. Parce que l'argument n'est pas là. L'argument, il est ailleurs, il va être sur la possibilité, sur justement le fait que ce que nous faisons n'est pas ancré dans notre nature.
C'est ça.
Et à partir de là, c'est quand même un peu la base, parce que pour tous ceux qui s'intéressent à cette question, il semble assez évident qu'aucun désir révolutionnaire n'a de sens si nous sommes convaincus que le capitalisme découle de la nature humaine, tout simplement. Et ici, je trouve ça moins intéressant d'attaquer la notion de nature humaine en disant qu'elle n'existe pas, plutôt que de dire, en fait, non. Regardez les autres possibilités réelles, là, qui sont sous vos yeux. Donc là-dessus, je trouve que c'est quand même intéressant. Et donc, Graeber réfléchit beaucoup à toutes ces questions d'imagination et de comment vivre dans un monde qui, d'une certaine manière, écrase en nous la possibilité d'imaginer d'autres mondes. Alors c'est pas pour rien qu'ils s'intéressaient beaucoup aussi à la science-fiction d'ailleurs, je pense. Mais justement dans cette perspective, dans une perspective un peu autre. Et donc il y a tout un tas de. Alors qu'est-ce que je voulais développer d'autre
peut-être
encore.
Un point juste là-dessus, un peu qui est intéressant parce que ça va dans le sens de ce que tu dis là. C'est aussi ça permet de voir comment en fait son travail d'anthropologie, ses recherches d'anthropologie et son engagement militant, hein, ça a été aussi, il était extrêmement, ça a été un des porte-parole, une des figures de, du mouvement d'Occupy Wall Street, par exemple, hein, après 2008. Et en même temps, il a toujours dit effectivement que c'était deux choses, deux engagements qui étaient en fait parallèles, qui étaient cohérents. Mais il s'agit pas de justifier son engagement anarchiste par l'anthropologie ou de justifier son anthropologie par un engagement anarchiste. Simplement, les deux entrent en écho en quelque sorte. Les deux entrent en écho. On peut effectivement, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Mais lui, il a toujours insisté là-dessus en disant il fait pas de l'idéologie, il fait pas de l'anthropologie anarchiste. Il s'intéresse dans l'anthropologie à des expériences concrètes d'organisation anarchiste ou anarchisante. C'est pas la même chose. Et il y en a. Voilà. Et il y en a, il se trouve qu'il y en a. Et par ailleurs, effectivement, il a cet engagement anarchiste militant. Et donc, effectivement, il peut arguer de connaissances qu'il a accumulées à côté. Mais il pourrait avoir cet engagement sans avoir non plus ce type d'approche-là. C'est ça. Hein. Et il y a un petit parallèle, je trouve, là-dessus, parce qu'il a toujours pris soin de séparer les deux en disant qu'effectivement il justifiait pas l'un par l'autre.
Tu veux faire un parallèle avec Chomsky?
Bah oui, c'est effectivement il y a effectivement ce parallèle là avec une autre figure, voilà, plus ancienne, qui est celle de Noam Chomsky, qui effectivement lui a passé aussi sa vie à dire qu'il avait ses recherches dans le domaine politique, ses recherches dans le domaine linguistique. Il se trouve que, et ça tombait bien pour lui, que les deux pouvaient éventuellement n'étaient pas en contradiction, voilà, ils pouvaient effectivement entrer en écho avec là aussi l'horizon d'une espèce d'étude de la nature humaine pour le coup, hein, et de sa plasticité, hein.
mais aussi de sa dureté. Il y a Chomsky qui déclare que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, si justement il n'y a pas de nature humaine et que nous sommes totalement plastiques, ça veut dire que les gouvernements peuvent faire de nous ce qu'ils veulent. Ouais. Et par conséquent, c'est pas forcément une opinion aussi progressiste qu'on pourrait imaginer que de dire que la nature humaine est une fiction. Et là-dessus, c'est assez amusant parce que cette question de la nature humaine revient aussi chez Graeber. Alors il l'esquive, il fait des petites pirouettes autour, il veut pas trop en parler. Je pense qu'il a pas envie de s'engager dans ce type de débat. Mais malgré tout.
Et ces deux figures, figures du savant anarchiste. Que je trouve intéressante parce que c'est pas des socialistes scientifiques, quoi. C'est pas du tout cette tradition là. On n'est pas sur des gens qui vont justifier leur engagement militant par une pseudo-science. Hein, il y a effectivement,
c'est une vieille tradition, parce que
c'est une vieille tradition.
Kropotkin, géographe, Élisée Reclus, géographe encore, pareil.
Avec à chaque fois, et je trouve que c'est intéressant ça, le rapport que tu trouves à chaque fois entre leur engagement scientifique et leur engagement politique. C'est les deux. Sont séparables et en même temps ils vont ensemble. Ce qu'on n'a pas dans d'autres traditions socialistes radicales ou
non, parce que très souvent ils étudient plutôt leur propre domaine en réalité.
Exactement.
C'est-à-dire, la plupart des marxistes sont des spécialistes de Marx. Donc d'une certaine façon il y a une concordance.
Oui, où tu peux faire une anthropologie marxiste en déclinant l'outil de lutte des classes et en l'appliquant à l'étude des sociétés. Mais dans ce cas-là, d'une certaine manière, tu arrives déjà avec tes outils d'une certaine manière. T'as pas réellement de d'indépendance entre les deux. T'arrives avec tes outils, t'arrives avec tes méthodes, t'arrives avec tes concepts, et effectivement tu vas les décliner dans une discipline particulière. Là c'est différent, hein. Effectivement c'est un anthropologue, du point de vue de ses méthodes anthropologiques il est
assez classique.
Il est classique, il a pas d'outils d'innovation méthodologique particulière. Par contre les champs qui l'intéressent et les conclusions qu'il va en tirer, elles, sont singulières.
Bah qui va étudier, quoi. Ouais. Il s'intéresse beaucoup, il a beaucoup travaillé sur Madagascar.
Ouais.
Et sur le rapport de Madagascar, donc colonisé par la France à la fin du 19e siècle, avec tout un tas de pratiques populaires très ancrées, de résistance aux pouvoirs locaux qui ont été transférés dans la résistance aux pouvoirs coloniaux. Donc il a passé pas mal de temps à étudier tout ça et il en a retiré aussi deux, trois idées qui. Pour justement, par exemple, les assemblées, assemblées délibératives militantes. Donc c'est, c'est de ce point de vue-là, moi je trouve que c'est cette espèce d'ancrage effectivement dans un champ d'études indépendant de sa pensée politique est assez effectivement sans doute assez important pour comprendre un petit peu ce qu'il a fait, quoi. On va peut-être faire une pause et puis ensuite on repartira sur Graeber.
Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui commence pour sa deuxième séquence de la soirée. Vous venez d'entendre un morceau de Fugazi qui s'appelle Margin Walker. Et nous reprenons l'émission ce soir en forme d'hommage à un grand anthropologue américain et un grand militant anarchiste qui est mort, qui nous a quittés il y a quelques jours, qui s'appelle David Graeber. Et on avait envie, parce qu'on a déjà fait, on avait fait plusieurs émissions sur lui de son vivant, hein. On avait envie un petit peu d'évoquer ce soir avec vous, eh bien ce qui nous avait plu, ce qui nous avait nourri dans l'œuvre de Graeber, et pourquoi c'est quelqu'un qu'on considère comme un auteur important, y compris dans l'histoire de Jeudi Noir et comme une référence dans l'émission. Donc Michel, tu disais dans une première partie qu'en fait ce que tu avais toi beaucoup apprécié, c'était la manière, le retour un petit peu au concret qu'on a chez Graeber, qui s'intéresse à des sociétés humaines réelles, passées ou présentes, qui cherche toujours à avoir une base empirique à ce qu'il dit, et qui nourrit en fait ses conclusions anarchistes, non pas de pure spéculation critique, ce qui est un travers un petit peu de la pensée critique contemporaine, notamment française mais pas seulement, et que c'est quelqu'un qui au contraire avait toujours eu le souci de s'appuyer sur des organisations et sur des sociétés humaines réelles pour aller effectivement chercher ce qui, dans ces organisations-là, pouvait alimenter un imaginaire libertaire et y compris une histoire des sociétés humaines et des organisations sociales anarchistes, puisque d'après lui, quand on cherche, on trouve. Et c'est cet effet de réel là pour toi effectivement te paraît être un des points forts en fait de son œuvre, parce que ça permet au contraire de montrer effectivement qu'il y a des alternatives, hein, cette espèce de pensée dominante économiste et hégémonique qui présente la nature humaine comme si c'était toujours la protée au gain, la recherche de l'intérêt, le calcul d'intérêt, et qui du coup est effectivement un soutien puissant au capitalisme, hein, puisqu'il apparaît du coup comme une forme naturelle et conforme à la nature humaine.
Si, paradoxalement, en fait, on pourrait renvoyer dos à dos une partie de la pensée critique et de la pensée économique dominante, en les réunissant sous une citation un peu détournée de Rousseau qui ouvre le discours, le second discours sur l'inégalité, et qui est écartons tous les faits car ils ne touchent point à la question. Et d'un côté, donc, il y a cette pensée critique qui va dire les faits n'existent pas, on s'en fout, nous on spécule. Et puis de l'autre côté, il y a les économistes qui vont dire nous on a défini la réalité, mais qui en fait s'en foutent complètement des faits eux aussi. C'est-à-dire que l'homo economicus d'Adam Smith, c'est une fiction, c'est une pure fiction. Sauf que les économistes, eux, n'ont pas abandonné le combat rhétorique de la définition de la réalité. Et de ce point de vue-là, Graeber, lui, alors il s'engage pas trop dans ces débats-là qui sont très philosophiques, que lui s'en fout un peu. Il fait son boulot d'anthropologue.
Oui, c'est pas une anthropologie spéculative, quoi.
C'est ça.
Il est pas.
Moi, évidemment, je m'intéresse au côté un peu spéculatif. Ouais. Je peux pas m'en empêcher. Et en même temps, alors après, mais lui, il va quand même définir. Il va dire les deux, la réalité humaine est constituée de réalité et d'imagination. La réalité, c'est ce qu'on n'arrive pas à englober dans toute une théorie. On se cogne contre ça. Et il n'empêche qu'il y a un débat public pour définir une espèce de polémique générale pour qui va définir la réalité. Et là-dessus, il y a tout un passage dans son œuvre que je trouvais aussi assez intéressant, où il définit, alors bon, il utilise un terme de façon un peu impropre, mais on s'en fout, il dit qu'il y a une ontologie politique de gauche et une ontologie politique de droite. Et qu'est-ce qu'il veut dire ici par ontologie ? Il veut dire, en quelque sorte, le droit... la revendication du monopole de la définition de la réalité, si je singe un peu Weber, le sociologue allemand du début du XXe siècle, la droite va dire la réalité c'est quoi ? La réalité c'est la violence. La réalité c'est la violence, c'est la destruction, et si globalement vous voulez faire des prévisions politiques, comptez toujours sur cette réalité inévitable de la violence. L'homme et les êtres humains sont violents, les êtres humains ont besoin d'un chef, et de toute façon, à la fin de tout, le droit, on s'en fout, la loi, on s'en fout, la justice, on s'en fout, c'est les plus forts qui gagnent. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que ce qu'il appelle ontologie politique de droite, c'est quelque chose qui a été très très souvent repris à l'extrême gauche. Du type, soyons réalistes, faisons comme la droite. Balançons à la poubelle toutes ces fictions moralistes, et... droit devant pendant le pouvoir. Donc bon, ça c'est intéressant quand même, je trouve. Et enfin, ce qu'il va définir aussi, c'est, et ça je trouve que c'est...
Tu peux citer là, en fait, tu rappelles un peu dans quel texte du coup il définit...
Alors, dans quel texte il fait ça, je suis pas sûr qu'il soit traduit en français. C'était un petit texte qui s'appelait Revolution in Reverse. Peut-être qu'il était traduit, je sais pas.
On mettra la référence sur le site.
On mettra la référence sur le site, ouais. Peut-être qu'il était traduit. Après, bon, Graeber a fait pas mal de copier-coller dans ses textes, donc c'est quelque chose qu'on peut peut-être retrouver dans Possibilité. Enfin, je sais pas. Faudrait voir, parce que c'était un petit texte vraiment très très bien, où justement il définissait ces deux ontologies.
Et donc, alors, l'ontologie politique de gauche.
Ouais, et l'ontologie politique de gauche, dit Graeber, elle, va être. Beaucoup plus finalement. Bon, il y a quelques pages très belles sur la violence là, dont je vous parlerai pas trop, mais bon, sur qu'est-ce que la violence ? Parce que justement, quand même, je le dis parce que c'est un passage qui m'a beaucoup marqué. C'est-à-dire que justement, la plupart des anthropologues ont défini la violence comme un moyen de communication, mais ils disent et le souci, c'est que ça suffit pas à caractériser la violence en propre, parce que presque toutes les formes humaines d'action sont de la communication. S'habiller, c'est de la communication. Parler fort, c'est de la communication. Ne pas parler, c'est de la communication. On est dans l'impossibilité de ne pas communiquer, nous autres êtres humains. C'est un truc qui a souvent été dit. Et lui, ce qu'il va dire, c'est que la caractéristique singulière de la violence, là, je le cite, ouais, c'est Revolution in Reverse, je crois, c'est qu'elle pourrait bien être la seule façon par laquelle il est possible pour un être humain d'avoir des effets prévisibles sur les actions d'autres êtres humains sans avoir besoin de les comprendre. Et ici, qu'est-ce que ça veut dire ? Cette très belle définition, je trouve, de la violence. Ouais. C'est-à-dire que la violence, c'est un moyen à la fois extrêmement efficace et totalement stupide de rendre les actions d'autrui prévisibles. Un exemple typique, ce serait, vous mettez quelqu'un à la frontière d'un pays et vous lui dites, tu tires sur tous ceux qui passent. Et en face, il y a des gens qui arrivent et qui disent, nous on vient parce qu'il y a une guerre, nous on vient parce qu'il y a des affreux gauchistes qui sont arrivés au pouvoir, nous on vient parce qu'il y a une famine, ils s'en foutent, ils tirent. Et de fait, pour agir et pour avoir une action prévisible sur les comportements d'autrui, il n'a pas besoin de comprendre ce que les autres lui disent. Mmh. Et ça, c'est une analyse que Graeber tire explicitement. Il les cite de féministes américaines, où justement, et ensuite, il va élargir à ça, puisque très très souvent, la menace de la violence, même purement virtuelle, suffit pour garantir une domination. Sans imagination. Et c'est pour ça que, par exemple, je trouve que ça, par rapport à la crise récente et par rapport à ce que disent nos gouvernants, c'est une analyse qui est très très pertinente. C'est-à-dire qu'effectivement, ces gens-là ne comprennent absolument rien à ce qui se passe, mais ils n'ont pas besoin de le comprendre. Ils ont toujours des flics pour éborgner les gens. Et donc tout va bien. Tranquille. Et là-dessus, je trouve ça assez fort. Après, assez fort, et ça peut s'étendre. Il reprend un exemple des analyses féministes où il parle des blagues machistes au sujet des femmes qui sont incompréhensibles et qui sont justement une pure expression de cette violence structurelle. Les hommes n'ayant pas besoin de comprendre les femmes puisqu'ils les dominent, ils peuvent dire qu'elles sont incompréhensibles puisqu'ils n'ont jamais fait l'effort de les comprendre. Et donc, de ce point de vue-là, cette ontologie politique de droite. Qui peut être aussi l'apanage de certains mouvements de gauche, faut être clair, s'appuie bien sûr sur cet outil massif de la violence qui va être défini comme étant la réalité ultime du monde humain.
Bon, en tout cas, il ne se paluche pas plus que ça sur la violence révolutionnaire ou sur le self-défense révolutionnaire ou sur les fantasmes de violence qui peuvent exister.
Non, parce que pour lui, justement, ce qui va l'intéresser dans l'ontologie politique de gauche, au contraire, qui définit comme une ontologie de l'imagination, c'est que déjà, il commence par dire que c'est pas une imagination. Pour lui, l'imagination de gauche ne doit pas être préoccupée de espèce de chimère un peu figée, irréalisable et dangereuse, d'utopie où il s'agirait de tout mettre à bas d'un coup et de tout changer,
la table rase.
Ça, je crois qu'il y... A priori, je pense qu'il y croit pas trop. Parce que, de son point de vue, là aussi, je trouve que c'est assez intéressant quand même, c'est que pour lui, être de gauche ou être révolutionnaire, c'est toujours imaginer de nouvelles possibilités sociales et politiques et essayer de les réaliser. Et pour lui, c'est ce qui se manifeste le plus, c'est ce qui caractérise les révolutions. Et malgré tout, là où il a un petit côté conservateur qui est intéressant, c'est que pour lui, ça suppose de reconnaître un substrat social préexistant. C'est ce que tu disais, pas de table rase. Et pour lui, c'est ce qui explique aussi pourquoi les plus grands idéalistes politiques du passé, dans notre histoire, on peut aussi revendiquer le titre de matérialiste. C'est-à-dire que, il faut être attentif à ce qui existe, si tu veux, comment dire, le transformer dans le bon sens. Là, on n'est pas très très loin de ce qu'on disait sur Orwell la semaine dernière, hein. Enfin, il y a deux semaines. Cette espèce d'attention au réel, éviter de mépriser les choses qui sont. Si on veut les transformer de façon humaine, entre guillemets, sans détruire la vie des gens.
Il faut se méfier de ceux qui veulent faire un homme nouveau.
Complètement.
Voilà. Et particulièrement s'ils le font en faisant l'apologie de la violence. Qui va évidemment créer la société idéale et l'homme nouveau idéal et régler tous nos problèmes. Bon, en ce sens-là, il est conservateur, mais en fait, en même temps, c'est...
Bah, comme Orwell.
Oui, il est conservateur, mais il est conservateur si on admet que des gens qui veulent créer un homme nouveau en abattant tout sur leur passage et surtout qu'on leur laisse les clés du camion, si on admet que ces gens-là ne sont pas conservateurs.
Oui, c'est ça. Mmh. Ouais.
Parce qu'on peut aussi considérer que, effectivement, les partisans de la table rase et ceux qui veulent créer un homme nouveau sont aussi ceux qui veulent maintenir tel quel des structures de domination ou d'autorité du pouvoir dans la société de demain.
Oui, les structures, en changeant les têtes des structures, voilà, c'est-à-dire globalement, oui, on change pas de structure de société, on change juste la tête. Voilà.
Et quelqu'un comme Orwell ou comme Graeber, ou peut-être, se dirait qu'en fait les conservateurs sont plutôt de ce côté-là en réalité.
Et c'est aussi pour ça peut-être que là je peux remettre une machine, enfin un sou dans la machine de l'attention au réel. C'est aussi pour ça que son métier d'anthropologue est intéressant. Parce qu'il a pu aussi observer des sociétés qui étaient fragiles, qui étaient, qui étaient secouées par des mouvements politiques profonds, et voir à quel point une société vivable n'est pas évidente.
Et puis ça veut dire qu'il aborde pas en fait la question de la révolution sociale. Il aborde pas cette question-là à partir d'un programme. Il aborde cette question à partir d'expérimentations concrètes.
Aussi, oui.
Ce qui change beaucoup de choses. Parce qu'en fait, tu n'arrives pas avec un programme ou avec un mantra, socialisation des biens de production, et puis après, tout est réglé. Tu n'arrives pas avec une recette. Tu n'arrives pas avec une recette et avec la calache. Mais par contre, tu pars d'expérimentations concrètes et tu essaies de voir comment, effectivement, elles sont généralisables, transposables, utilisables.
C'est vraiment ce qu'il dit. Il dit, voilà... J'ai vécu longtemps à Madagascar, et à Madagascar, vous avez l'État s'était quasiment effondré, les policiers, leur boulot essentiel, c'était d'essayer de racketter les automobilistes sur une nationale, mais dès qu'il fallait s'enfoncer de 5 km dans les terres, on ne les voyait plus. Et donc, tu avais affaire à des gens qui retournaient à des modèles de régulation sociale qui étaient, relativement complexes, et en particulier au niveau de la prise de décision. Et, par exemple, ils racontent comment un type qui manifestement a des gros soucis passe son temps, il est grand, il est fort, il passe son temps à racketter tout le monde dans le marché. Et les policiers viennent plus, et les gens savent pas quoi faire. Et à un moment, ils prennent la décision, les jeunes se disent, il faut le tuer. Parce qu'ils savent pas quoi en faire, tout simplement, c'est assez affreux. Et ils prennent la décision avec l'accord des parents du gars. Donc on imagine qu'il y a des grosses négociations et tout, bon l'histoire se termine de façon pas trop horrible, parce qu'ils essayent de le tuer, mais c'est pas des tueurs, donc le type s'enfuit, okay. Il se réfugie chez le prêtre, donc ils osent pas rentrer dans l'église, et le prêtre exfiltre le gars en voiture, et l'amène ailleurs, bon c'est pas trop ce qu'il adviendra de ce gars, mais là à cette occasion Graeber dit, en fait je me suis rendu compte que... Ils ont de telles pratiques de négociation collective pour arriver à des décisions, comme ce sont des sociétés fragiles, où on ne peut pas se permettre de provoquer une guerre civile en ayant 49% contre 51%. Ce qui pourrait se produire dans ce type de société. Mais comme ils sont 500, c'est la mort. C'est foutu. Donc, il dit, j'avais affaire à des adolescents qui étaient mieux formés que moi, finalement, à la prise de décision collective par consensus. Et c'est ce genre de pratique qu'il va essayer de transférer aussi, par exemple, au moment de différents mouvements américains, Occupy Wall Street et tout. Donc ça, je trouve que c'était...
Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, effectivement, là, t'as cet exemple-là, dans le petit recueil là, qui avait été édité aux éditions du MOS, là, il y avait beaucoup d'exemples comme ça. Hein. Il s'appuyait aussi sur les pratiques pirates. Hein, les pratiques pirates, effectivement, avec des prises de décision très horizontales, assez codifiées, mais ce qu'il faut pour effectivement éviter les abus de pouvoir, les abus d'autorité. tu as toutes ces études aussi de mémoire sur la question du prolétariat nord-atlantique, là, avec toutes tes pratiques, en fait, des croisements aussi, des hybridations, des créolisations dans les pratiques, entre effectivement des pratiques qu'on trouve sur les comptoirs commerciaux en Afrique de l'Ouest, et puis aussi en Amérique du Nord. Ça, c'était très intéressant, et c'est assez puissant, ces outils-là. Et ils s'intéressent effectivement à toutes ces manières de mettre en place des prises de décision horizontales, avec effectivement, comme tu dis, derrière la question de savoir, bon, bah voilà, dans tel contexte, qui est un contexte marginal ou qui est un contexte spécifique, singulier, voilà, il y a eu ces mécanismes-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est transposable? Qu'est-ce qui est applicable? Qu'est-ce que ça nous apprend d'une certaine manière? Mais on ne met pas la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on étudie d'abord le fonctionnement dans son contexte et ensuite on essaie de voir ce qui est transposable. On ne part pas d'une théorie de la décision ou du consensus ou de la démocratie directe ou de l'autonomie. On ne part pas de la théorie ou du programme pour essayer de trouver des validations. On part effectivement du fonctionnement concret.
De pratique.
Et ensuite on essaie de voir si on peut décliner certaines règles ou certains aspects dans des formes, dans des contextes plus militants ou plus directs, type Occupy. Et c'est aussi effectivement une forme de fonctionnement qui est assez caractéristique parce que c'est prudent. Parfois c'est un peu moins séduisant et c'est un peu moins vertigineux que le charisme de la table rase ou de la violence qui est accoucheuse de l'histoire. Mais ça a le mérite effectivement de ne pas imposer de signification à ce que font les gens, à ce qu'ils ont fait. Et puis à ce qu'ils pourraient faire, y compris aujourd'hui. Et oui, tu as raison d'insister là-dessus. Quoi. Ça, sur Madagascar, c'était pareil, de quel côté
J'ai oublié, je crois que c'est dans Possibilité, mais j'en suis pas sûr, un bouquin qui a été traduit, parce que là, je m'appuie sur un truc que j'avais fait pour une autre circonstance. J'avais lu 4-5 bouquins de Graeber, et donc je fais une espèce de présentation générale, de synthèse.
On mettra de toute façon des références sur le site.
J'oublie où était cet exemple, mais il m'avait marqué parce que je le trouvais assez. C'est peut-être dans. Comme si nous étions déjà libres. Mais j'en suis pas sûr. Enfin bon, on va faire une. Non, sans doute pas. Enfin bon, on va faire une pause musicale et puis on se retrouve après.
Boy, you leave, don't lay.
Bonsoir à tous, c'est Jeudi Noir qui commence sa dernière séquence sur Radio Liberté à 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, et l'émission, alors vous venez d'entendre un morceau qui s'appelle La Dette, d'un groupe bruxellois qui lui-même s'appelle Black Chip. Alors pourquoi? Ah, c'est l'inverse, Black Chip de La Dette, autant pour moi. Mais on reste dans le sujet dans les deux cas, puisque cette émission est consacrée, on l'a dit tout à l'heure, à une forme d'hommage à David Graeber, à la fois anthropologue et militant anarchiste, qui nous a quittés il y a maintenant quelques jours. Et duquel on a déjà pas mal parlé dans Jeudi Noir, et on voulait un petit peu lui rendre cet hommage là ce soir en évoquant aussi à l'antenne un certain nombre de points qui nous paraissent importants dans son œuvre et qui nous ont nourris nous de notre côté. Donc Black Sheep, et ben voilà, c'est le Graeber anarchiste qu'on célèbre ce soir, et on en... Et La Dette, et ben on voulait en parler aussi évidemment là dans cette dernière partie de l'émission, parce que c'est un de ses best-sellers. Hein.
C'est le bouquin qui en a fait une star mondiale,
donc 5000 ans d'histoire de la dette, donc une espèce de somme anthropologique sur l'histoire de la dette à travers les âges, et qui, alors pour le coup, tu le disais au début de l'émission, qui est vraiment un ouvrage dans lequel, là, il démonte, mais boulon par boulon, la mythologie économiste libérale, qui en fait nous raconte une espèce de fable de l'histoire du crédit, de l'histoire de l'économie d'une certaine manière, qui aboutirait tout naturellement vers les obligations contractuelles que nous avons à l'égard de nos banquiers, et qui serait finalement une espèce d'aboutissement et de perfectionnement des comportements économiques naturels de l'être humain. Et en remettant en perspective ça sur une histoire très longue, et en reliant en fait l'histoire de l'économie à celle des États et de la violence militaire et de l'esclavagisme, Graeber nous raconte une toute autre histoire, et nous permet de démonter cette espèce de fiction économiste de manière assez stimulante, hein, il faut quand même le dire, et pour le coup politique, hein, c'est-à-dire qu'il en fait effectivement une histoire politique. Et du coup, tu peux peut-être
si vous avez le courage, vous attaquez un bouquin de 500 pages, ouais, qui a peut-être pas été super bien édité, peut-être qu'avec une éditrice ou un éditeur un peu plus bastonneur, Greg Graeber écrivait beaucoup, il écrivait tout le temps, je pense. J'aurais peut-être mérité une meilleure édition, mais malgré tout, ça reste un livre... Moi, je vous recommande chaudement, efficace, très agréable à lire,
érudit en même temps,
et qui aborde des tas de sujets. Si vous devez lire un livre de Graeber, il fait 500 pages, c'est du costaud, mais ça se lit. Pas besoin d'être un philosophe ou un anthropologue pour le lire. C'est très très bon. Et moi, je vais reprendre juste un truc dans ce bouquin qui est gigantesque. C'est son démontage systématique du mythe du troc. Et justement, je parlais du déni des faits chez les économistes qui prétendent définir la réalité. Et là, c'est sans doute un exemple des plus parlants. C'est-à-dire que, globalement, les économistes prétendent définir la réalité de l'échange chez les êtres humains. Et ils vont dire, voilà, au début, les êtres humains troquaient. Et très très vite,
ils se changeaient bien contre des biens.
Voilà, ils se changeaient bien contre bien. Et ils sont très vite aperçus qu'il y avait un problème. Et ce problème, c'est ce qu'on appelle la double coïncidence du besoin. C'est-à-dire que si je fais des chaussures et que j'ai besoin de poissons, je ne peux pas filer 20 paires de chaussures contre une tonne de poissons. Enfin, ça va être très compliqué. C'est-à-dire que je n'aurai pas forcément besoin de ce que l'autre a à me donner, et l'autre n'aura pas forcément besoin de ce que j'ai à lui offrir en échange. Et donc, les économistes vont dire, c'est comme ça qu'on a inventé l'argent, pour justement faciliter les échanges. Et à partir de là, comme on invente l'argent, très très vite, on invente la dette. Et ce que Graeber va montrer, c'est que c'est complètement faux. C'est une fiction totale. C'est-à-dire que les anthropologues ont eu beau parcourir le monde,
l'idée étant, dans cette petite fable que tu viens de rappeler, l'idée étant que naturellement, les êtres humains, parce qu'ils échangent, sont amenés effectivement à créer de l'argent et de la banque.
Tout à fait.
Et l'institution du crédit.
Voilà.
C'est naturel.
C'est naturel.
C'est l'évolution naturelle des choses.
Et c'est pratique.
Voilà.
Et là-dessus, Graeber va dire, en fait, ça fait 100 ans que les anthropologues disent aux économistes que le mythique pays du troc n'existe pas, n'a jamais existé. Et qu'en réalité, les seules circonstances sociales dans lesquelles on a observé du troc, c'était soit dans des pays où le système monétaire s'était effondré, mais était déjà préexistant, et où les gens faisaient des échanges à partir finalement des valeurs dont il se souvenait avant l'effondrement du système monétaire.
Une espèce de spectre, de spectre des choses monétaires.
C'est ça. Voilà. Bah, ils ont une vague idée de la valeur des choses, et donc ils essaient de troquer à partir de là. Et l'autre circonstance dans des sociétés qui ne connaissent pas l'argent, on a pu observer du troc, c'est quoi ? C'est des sociétés, c'est par exemple les Namiquara au Brésil, qui ont été aussi étudiées par Lévi-Strauss, par Claude Lévi-Strauss, où en réalité le troc se pratique entre des gens qui ne se connaissent pas et qui sont toujours, au moment de l'échange, au bord de la guerre. Pourquoi ? Parce que dans une société où on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait ? On ne troque pas. Du tout. Parce qu'on a confiance dans l'autre. Confiance, pas parce qu'on est un bon sauvage rousseauiste, non, parce qu'on sait qu'on pourra toujours le retrouver. Et que si il prend sans jamais redonner, ça va mal finir pour lui aussi. Et donc, globalement, c'est des systèmes qui sont fondés sur le fait que tout le monde se connaît, que tout le monde sait qu'il a besoin de l'autre, et que on se donne parce qu'on sait que l'autre redonnera tôt ou tard.
On se prête aussi.
On se prête, mais c'est pas présenté comme du. C'est présenté comme un don, en fait. On pourrait reprendre les analyses de Bourdieu sur le don et le contre-don, sauf que Bourdieu, il est quand même dans un cadre libéral quand il fait ces analyses-là. Là, chez les gens qui étudient Grébert, l'échange se fait sur une toute autre base. C'est-à-dire que tu vas chez ton voisin, parce que ton voisin, il a des jolis poulets, par exemple, hein, et tu vas chez lui, tu discutes une demi-heure avec lui, tu lui dis ah, t'as des beaux poulets. J'ai des amis qui viennent à la maison vendredi. Et là, l'autre comprend que tu veux un poulet. Il oublie de te le donner. Il donne le poulet. Bon. Et 6 mois plus tard, il a besoin d'un cadeau pour, je sais pas moi, marier sa fille. Je dis n'importe quoi. Et il va chez toi et il dit « Ah, elle est belle ta lance. » Et là, t'es obligé de lui donner ta lance. De fait, ces espèces d'échanges où chacun est en crédit avec tout le monde, et ici crédit, on peut aussi rappeler le sens du mot « confiance ». C'est-à-dire, tout le monde a du crédit auprès de tout le monde, c'est-à-dire qu'on tient ensemble parce qu'on a tous... On a tous des liens de dette entre les uns vers les autres, sauf que c'est pas du tout une dette monétaire. Et avant l'argent, on pourrait utiliser pas le terme de dette, mais le terme de crédit, justement en termes de confiance et de je sais que tu me rendras quelque chose en échange. Et c'est pas quelque chose dont alors ces gens-là sont pas idiots, ils quantifient les choses, ils voient bien quand quelqu'un essaie de les arnaquer. Hein, simplement, la base de leur calcul, ça va pas du tout être ça. Ça ne va pas du tout être « est-ce qu'il m'a rendu mes 5 grains de sel ?» Ça va plutôt « ah, je lui ai donné ça, il va peut-être pouvoir me donner ça, et puis on va continuer comme ça toute la vie. »
Il me semble qu'on pourrait résumer, là, tu me dis si je me trompe, mais finalement ce qu'il arrive à montrer, ce qui est assez fort dans son argumentaire, c'est que ce qui est naturel, ce n'est pas de rembourser ses dettes, c'est de s'endetter.
Oui.
Et qu'en fait, le moteur des relations, d'échange, c'est l'endettement.
Oui, mais ça peut s'observer encore aujourd'hui entre amis. C'est refuser le cadeau de quelqu'un, c'est dire à quelqu'un « je ne veux pas être ton ami ».
Et en fait, son idée, c'est qu'effectivement, il s'appuie finalement sur l'idée qu'en fait, le fait de régler une dette, de régler son compte,
oui,
c'est de mettre fin à une relation.
Complètement.
Et donc, en fait, les relations sociales, ce qui est naturel aux échanges humains, c'est l'endettement mutuel.
C'est exactement ça. Là, il y a un exemple qu'il donne qui est excellent. Une anthropologue arrive dans un village, dans un pays d'Afrique. Elle s'installe. Tout le monde sait qu'elle s'est installée. Que font les femmes du village? Elles passent toutes chez elle. Elles lui font des petits cadeaux. Et l'anthropologue demande à son informatrice « Qu'est-ce que je dois faire ?» J'en sais rien, moi. Et l'autre lui dit « C'est simple, tu vas les revoir toutes et tu leur rends un peu plus et ou un peu moins. »
Surtout pas
l'équivalent.
Ne rembourse surtout pas.
Soit tu leur donnes un peu plus, soit tu leur donnes un petit peu moins. L'idée étant que tant qu'il y a des déséquilibres en termes justement d'échange, l'échange doit continuer. Puisque soit tu es en dette, encore en dette, soit tu as rendu l'autre personne débitrice. Et là-dessus, je pense que c'est une analyse qui est assez juste. Si on observe un petit peu ce qui se passe dans les relations humaines, justement, où finalement le côté monétaire ne va pas être prévalent.
Et surtout, ça veut dire qu'à partir du moment où effectivement ce qui devient prégnant, c'est de rembourser une dette en argent, c'est-à-dire qu'on peut le quantifier de manière exacte, et qu'on met ça comme objectif, en fait, des bons comptes qui feraient des bons amis, alors que c'est plus compliqué que ça en réalité. À partir du moment où on quantifie l'endettement, à partir du moment où on met l'obligation de remboursement et qu'on met une garantie d'État derrière ça, d'une certaine manière, apparaît des problèmes de violence et de pouvoir.
Complètement.
Et en fait, il n'y a pas d'histoire de la banque ou de l'argent indépendante de l'histoire de
absolument
l'État et
pas
du pouvoir politique.
C'est-à-dire que lui, ce que montre Grébert dans son livre La dette, c'est que le marché, avec l'argent, pas, le marché, ça désigne pas le système des échanges, hein. C'est une façon d'échanger le marché. Mais ce qui montre, c'est que le marché est indissociable, l'apparition du marché est indissociable des premiers États. Pourquoi ? Parce que justement, ce qu'il va dire, c'est les premiers grands États qui ont des armées, qui essaient d'envahir d'autres pays pour agrandir leur territoire, ils ont un souci, c'est que les soldats doivent se nourrir
sur
l'habitant. Or, si tu veux garder tes habitants, il faut pas trop leur voler de trucs. Comment faire en sorte que les soldats qui ne sont pas connus des habitants puissent se procurer leurs biens auprès des habitants ? Il faut que, justement, ils puissent payer, puisqu'ils ne pourront pas échanger, rentrer dans des systèmes de crédit mutuel, puisqu'ils vont partir. Mais les habitants, pourquoi est-ce qu'ils voudraient de l'argent ? Ils n'y ont pas intérêt, ils n'ont rien à en faire. Ben, à partir de là, ce que dit Gaber, c'est que c'est à ce moment-là aussi que les États mettent en place des impôts qui ne peuvent être payables qu'en argent. Et donc, tu as une espèce de système État, armée, mine exploitée par des esclaves, habitants qui accueillent les soldats, qui va se mettre en place. On envoie des soldats pour capturer des esclaves qui vont exploiter des mines, qui vont nous donner de l'argent, qui vont nous permettre de payer les soldats, qui vont permettre aux soldats de payer les habitants pour les biens qu'ils échangent, qui vont ensuite nourrir l'État.
Ça veut dire que l'argent est un instrument politique d'État.
Voilà.
Voilà. Et c'est un instrument politique d'État qui est au service du militarisme d'État.
Oui.
Voilà. Et qui est indissociable d'un esclavagisme d'État, puisque pour fabriquer de l'argent, il faut aller extraire des denrées rares qui auront une valeur du fait de leur rareté. Et c'est pour ça, il faut être capable de contraindre des gens d'aller les chercher dans des mines.
Qui n'ont plus qu'une valeur d'échange et aucune valeur d'usage.
Donc ça veut dire qu'il n'y a rien de naturel dans l'évolution, dans l'apparition de l'argent, d'un équivalent universel, il n'y a rien de naturel derrière ça. C'est pas parce que c'est plus pratique ou parce que ça fluidifie les échanges, c'est parce que à un moment donné, ça devient un instrument politique pour les États émergents, qui doivent effectivement nourrir leurs armées et qui, du coup, vont être amenés à exercer une contrainte sur les populations pour aller extraire, voilà. Et donc là, on a une espèce de repolitisation complète, en fait, oui, de l'institution monétaire et de la mise en place des marchés,
oui,
qui
va aussi dans une pure tradition anarchiste, une critique simultanée de l'État et du marché.
De l'État et du marché.
Signifiant par là que le capitalisme et l'État sont indissociables. Mmh. Qu'il n'est peut-être pas possible de conserver une machine étatique si on veut se débarrasser du capitalisme. Enfin, ça, c'est des questions très compliquées, mais ouais, il est dans une lignée, là, anarchiste assez pure, disons.
Et pour le coup, c'est vrai que là, on a quelque chose qui renverse complètement la perspective économiste classique, je dirais, sur l'histoire de... L'idée, c'est qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, la fable économie, c'est troc, puis apparition de l'argent, puis mise en place d'une économie de marché, puis mise en place d'une finance, d'une banque avec le crédit. Et en fait, lui, ce qu'il essaie de montrer, c'est d'une certaine manière, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait ce qui est premier c'est le crédit, mais oui, pas au sens de crédit bancaire, au sens de crédit de dette mutuelle,
hein, effectivement, qui fait société,
et donc la dette comme lien social d'une certaine manière, c'est ça qui est premier. Et après effectivement on a l'apparition des États qui eux vont faire violence en fait à cette sociabilité de base, primaire pourrait-on dire, des échanges et de l'endettement mutuel, qui fait violence à ça en imposant effectivement un équivalent qui va être l'argent, en mettant en place effectivement une économie de marché qui va fonctionner là-dessus, et qui va de pair avec un appareil de coercition et un appareil militaire qu'il va falloir entretenir. Et la banque vient en fait d'une certaine manière confirmer ce fonctionnement-là. C'est-à-dire que c'est la finance, au fond, qui fait partie de l'histoire de l'État. La finance est finalement la dernière étape de l'histoire de l'État, de l'État militaire, d'une certaine manière. Et ce qui fait que du coup, là, on a une fable qui se trouve d'une certaine, voilà, qui se trouve pour le coup remise sur ses pieds. Hein, et je trouve que ça, c'est un argumentaire assez puissant, effectivement, du bouquin.
Oh bah ouais, moi, ça m'avait à l'époque quand j'avais lu ça, ça m'avait vraiment un petit peu retourné la tête. Parce que...
On était à l'époque, c'est un texte qui a été traduit en français. Alors là, pour le coup, il est tombé après 2008, hein, après,
oui,
effectivement, la crise de 2008.
Je ne sais plus, 2012,
on était
2013,
en plein psychodrame, hein, grec, oui, avec Schäuble, là, le ministre des Finances allemand,
oui,
sur la dette grecque, sur voilà, la Grèce doit payer, etc. etc. Et pour le coup, là, alors c'est devenu un peu, malheureusement, un peu familier, mais là, on est dans un truc qui résonne très fort, je trouve.
Mais il part de ça, justement, le bouquin, ouais, La dette part d'une... D'une soirée où il entend quelqu'un dire mais il faut payer ses dettes.
Exactement.
Et il dit mais en fait les États-Unis sont endettés de façon colossale auprès de tout un tas d'États. Il dit mais
Les États-Unis ne remboursent jamais leurs dettes. Et,
qu'est-ce que ça veut dire ?
Qu'est-ce que ça signifie ? Et il dit, voilà, en gros, c'est imaginer que votre voisin très très musclé et ses cinq amis très très musclés viennent chez vous et vous disent, j'ai besoin de t'emprunter 200 euros. qui vous reconnaissent, qui vous disent, je te dois 200 euros, en fait. Hein, et qui vous remboursent jamais. Et correctement, ils viennent vous taper comme ça. Ah, en fait, je te dois 600 euros maintenant. Bon, est-ce que c'est une dette ? Et lui, qui va dire, non, non, c'est un tribut. les États-Unis lèvent un tribut auprès des États voisins qui ne peuvent, de fait, pas exiger, en tapant du poing sur la table, qu'on leur rembourse leur dû. Et donc, c'est un livre qui est vraiment extrêmement riche, que moi, je vous recommande vivement. Je trouve que ça vaut toujours le coup d'être lu. Voilà, donc, vous pouvez aussi lire Possibilité, hein, de David Graeber.
Donc, il y a La démocratie aux marges, très bon petit livre aussi, là, les petites études là.
Oui, mais ça a été traduit dans Possibilité 1.
En fait, il y est dedans.
Ouais, il y est dedans. Okay. Okay. Et donc, tout n'a pas été traduit malheureusement. Chez, je crois, Libertalia, ils ont sorti récemment un des derniers bouquins de Graeber. Alors, je l'ai acheté, je ne l'ai pas lu, sur les pirates. Alors, c'est un sujet un petit peu à la mode, mais.
Oui, mais c'est une approche, c'est toujours pareil, avec cette idée de l'idée que, bon, y a la piraterie, là, comme système de prédation et tout ça, mais il y a effectivement le fonctionnement horizontal, effectivement, le type de recrutement, le type de profil sociologique, effectivement, qu'a nourri le rang des pirates. C'est toujours très intéressant, parce qu'en fait, c'est des marginaux rejetés d'un peu partout, repris de justice, etc. Mais du coup, ils ont un rapport assez sain à l'autorité, à la hiérarchie, ces gens-là. Et donc, ils ont imaginé tout un tas de techniques plutôt opérationnel hein, pour limiter tout ça. Donc oui, c'est un de ces angles d'attaque aussi, ça. On peut peut-être l'indiquer quand même, parce qu'on le vérifiait au passage. Il y a un appel, on ne sait pas trop ce que ça va donner, hein, mais si vous pouvez aller regarder aussi, il y a un appel à hommage intergalactique qui a été lancé par la femme de Graeber hein, le 11 octobre prochain. Alors, c'est un dimanche, apparemment. Et qui en fait appelle tous ceux qui ont apprécié son œuvre ou qui ont de la sympathie pour l'œuvre ou pour l'engagement de Graeber à se rassembler partout où ils seront. Alors effectivement, il y a pas mal d'événements qui ont l'air d'être prévus là-dessus. Donc peut-être ayez un œil sur les réseaux militants là-dessus autour du 11 octobre pour cet appel à rendre hommage à David Graeber, à son œuvre et à ce qu'elle a pu
inspirer aux autres.
Inspirer aux uns et aux autres. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dernier morceau qui s'appelle Anthropologist. Ça s'impose.
Ça s'impose, ça s'invente.
Et vous pourrez retrouver cette émission, comme d'habitude, sur le site de l'émission Jeudi Noir, gurdulu.org. Voilà. À dans 15 jours.